watched him circle around the block. Finally stopped at mine.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur les bonnes ondes de Radio B. Nous sommes en direct du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Je suis Emeline, infirmière à la coordination hospitalière des dons d'organes et de tissus.
Bonjour, je m'appelle Anissé, je suis également infirmière à la coordination. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux dons d'organes.
Avec nos invités aujourd'hui, on va parler de vie et de transmission.
Grâce aux témoignages de personnes greffées, de soignants et de familles de donneurs, on va essayer de comprendre ce qu'il se passe derrière le don d'organes.
Et surtout, quelle est l'importance de s'exprimer de son vivant.
Car selon l'Agence de la biomédecine, si toutes les personnes favorables au don en parlaient à leurs proches, il n'y aurait plus de liste d'attente de receveurs.
Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage aux donneurs et aux donneuses.
Cette émission a lieu dans le hall d'entrée de l'hôpital, où depuis tout à l'heure, vous pouvez admirer une œuvre collective.
Nous sommes heureux que ce lieu de reconnaissance des donneurs voit le jour, car il est vraiment en gestation depuis plusieurs semaines, voire des années.
C'est une œuvre tissée que tout le monde peut venir contempler.
On en reparle en fin d'émission avec les deux designers qui ont pensé et encadré cette création participative.
Restez avec nous, on vous propose un parcours sensible à travers des mots, des voix, des histoires vraies autour du don d'organes.
Vous écoutez Radio B.
On commence tout de suite avec notre premier invité, le docteur Xavier Chéniaud, réanimateur et responsable de la coordination hospitalière. Bonjour.
Bonjour.
Xavier, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle dans le processus de don d'organes ?
Oui, bien sûr. Mon rôle en tant que médecin coordinateur, c'est d'être le lien entre tous les acteurs du don d'organes et de tissus, du début à la fin du processus, tout en accompagnant les familles avec beaucoup de respect et d'humanité. Concrètement, ça commence dès qu'un patient en réanimation évolue défavorablement vers le décès. Là, on évalue si un don est médicalement possible. On vérifie les antécédents, les contre-indications et bien sûr la non-opposition du patient en consultant le registre national des refus et en échangeant avec la famille. Ensuite, on travaille en étroite collaboration avec les équipes médicales, les chirurgiens, l'agence de la biomédecine pour organiser la logistique du prélèvement dans des délais souvent très courts. Et surtout, on est là pour accompagner les proches dans un engagement extrêmement difficile. On prend le temps, on écoute, on informe avec délicatesse, on respecte leurs valeurs et leurs émotions.
En France, il y a des grands principes qui régissent le don d'organes. Lesquels ?
Oui, c'est important d'en parler. En France, le don d'organes repose sur trois grands principes qui garantissent que ce geste reste solidaire, éthique et respectueux. D'abord, il y a le consentement présumé. On est tous considérés comme donneurs, sauf si on a exprimé un refus de notre vivant. Ce refus peut être inscrit sur le registre national des refus ou transmis par un proche. Donc en parler avec sa famille, c'est essentiel. Ensuite, le don d'organes est entièrement gratuit. Aucune rémunération n'est possible. C'est un acte altruiste. Et enfin, il y a un anonymat. Les proches du donneur ne connaîtront pas le receveur et inversement. Cela protège tout le monde et garantit l'équité dans l'accès à la greffe. Ces trois principes, consentement, gratuité et anonymat, sont les fondements du don d'organes en France. Ils permettent de sauver des vies dans un cadre clair, humain et respectueux.
Pouvez-vous nous expliquer qui peut donner ces organes ?
En réalité, beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense peuvent être donneuses. Il n'y a pas d'âge limite et on évalue surtout l'état de santé des organes au moment du décès. Ce sont les médecins qui évaluent organe par organe, ce qui est prélevable et greffable, toujours dans le respect du défunt et de ses volontés.
Très concrètement, quels organes peuvent être greffés et est-ce qu'on peut choisir quels organes on souhaite donner ?
Alors, les organes qui peuvent être greffés sont essentiellement le cœur, les poumons, le foie, les reins, le pancréas et parfois l'intestin. Il y a aussi de nombreux tissus comme les cornets, la peau, les veines, les artères, les os, tendons et ligaments. Donc un donneur permet dans la majorité des cas de greffer plusieurs personnes. Vous pouvez bien entendu choisir les organes que vous souhaitez donner et ceux pour lesquels vous vous y opposez. Dans ce cas, il faut l'indiquer sur le registre national des refus ou bien le transmettre à ses proches, à l'oral ou avec un document écrit.
Selon l'Agence de la biomédecine, l'âge moyen d'un donneur est de 58 ans. Mais est-ce qu'il y a une limite d'âge pour donner ?
Comme je le disais tout à l'heure, jeune ou âgé, malade ou en bonne santé, il n'y a pas de contre-indication de principe au don d'organes. Aujourd'hui, le prélèvement est possible à tout âge, que l'on soit enfant ou personnes âgées.
Au 1er janvier 2025, il y avait 22 000 personnes qui attendaient une greffe. Et pourtant, selon le baromètre de l'Agence de la biomédecine, une majorité de Français est favorable au don. Alors pourquoi ce décalage ?
C'est vrai, c'est une question qu'on nous pose souvent et elle est très juste. En effet, la majorité des Français sont favorables au don d'organes. Mais dans les faits, il y a beaucoup moins de dons que ce chiffre pourrait laisser penser. D'abord parce que le don d'organes est médicalement très encadré. Il ne peut avoir lieu que dans des conditions très particulières, souvent en réanimation, en cas de mort cérébrale ou dans un contexte bien précis après un arrêt cardiaque. Donc les cas sont rares. Ensuite, le taux de refus est élevé, plus de 36% en 2024, car les proches, sauf faute de connaître la position du défunt, préfèrent dans le doute rapporter une opposition. Ce qu'on observe, c'est que plus on en parle en amont, plus il y a de donneurs et moins il y a de refus. D'où l'importance de la sensibilisation. Donc oui, il y a un décalage, mais il peut être réduit et chacun à son niveau peut y contribuer, simplement en exprimant sa position.
Merci Xavier. Votre témoignage nous éclaire sur l'organisation médicale du don d'organes. Mais pour beaucoup, le don d'organes, c'est avant tout une histoire intime.
On vous propose d'écouter le témoignage d'une maman de donneur.
Je suis Caroline Glénat, la maman d'Hugo, qui a donné ses organes. Voilà. En juin 2023. Alors, moi, je n'avais pas eu d'expérience. Par contre, on y avait réfléchi et clairement, on était donneur potentiel permanent, quoi. Et puis, Hugo aussi, d'ailleurs, parce qu'il était sur la même longueur d'onde que nous. Et en plus de ça, il était motard. Il conduisait une 125 et donc à chaque fois, on lui disait d'être très prudent et tout. Et puis, il nous disait, mais t'inquiète, de toute manière, tout ne sera pas perdu. Enfin, on a l'air de dire... Voilà, de toute façon, si je pars, je donnerai mes organes. Et puis, ça c'était notre rapport au don, avant qu'on y soit confronté vraiment. Quand Hugo a fait, en fait, il a fait un accident cardiaque. Donc, quand on a su qu'il était dans cet état-là, de mort encéphalique, dans la voiture, j'ai dit à mon mari, mais en fait, c'est là qu'on peut donner, là. Donc, on en a parlé le lendemain, la fois suivante où on est revenu, quoi. Et puis tout s'est enchaîné comme ça, dans cette optique-là. Mmh. En attendant, bien sûr, le scanner, le fameux scanner qui confirme et tout, mais en fait, on savait déjà, quoi. Donc après, toutes les équipes se sont organisées, en fait. Mmh. Ça a permis ça aussi. Je sais pas d'où viennent les receveurs, mais en tout cas, il se peut qu'ils viennent de Brest, de Paris ou d'ailleurs, quoi. Mmh. Donc ça a laissé le temps à s'organiser. Et puis du coup, le samedi soir, c'est-à-dire le 10 au soir, dans la nuit en tout cas, il y a eu des transferts. Et nous, on a pris ça comme une chance, entre guillemets, parce qu'il aurait très bien pu faire son arrêt cardiaque, et puis que ça attend jusqu'au lendemain et tout. Non, en fait, là, tout de suite, il y a son ami qui nous a alertés. Alors, entre le moment où il nous a alertés, où j'ai pris son message... On a réagi, de toute manière, c'était déjà, il s'est écoulé des minutes. Mmh. Mais n'empêche que du coup, ça a permis quand même aux pompiers, avec leurs équipements, de relancer le cœur. Mmh. Même si la mort encéphalique était là, mais au moins, ça a permis la circulation et puis le don. Mmh. Je le vois comme ça, en fait. Mmh. Ça aurait pu être pire. Ouais. Son idée, c'était, son esprit, c'était vraiment de donner, il était vraiment comme ça, quoi, en fait. Et déjà de son vivant, il avait fait énormément de bien autour de lui, par sa présence et par son avenance et tout, et son empathie avec les gens, quand il a fait son stage en maison de retraite, par exemple. Et voilà quoi. Il est allé au bout du bout et moi je suis contente que les choses se soient enchaînées pour lui permettre ça, quoi, qu'on ait donné le feu vert, que ça ait marché, qu'il y ait les équipes, tous ces déroulé pour qu'il s'accomplisse jusqu'au bout. Et ça, c'est beau, quoi. Emeline m'avait laissé sa carte en disant « Si vous voulez me rappeler pour un jour, éventuellement avoir des nouvelles, savoir comment c'est... Enfin, pourquoi, quelques questions que ce soit, et même demander des nouvelles des receveurs, c'est possible. » Et elle m'a laissé son numéro. Et donc, j'étais pas sûre de l'appeler, en fait. Hein, mais je l'ai fait un jour où je me suis sentie capable d'entendre que potentiellement ça n'aurait pas marché. Okay. Oui. Mon mari n'était pas prêt, par exemple, parce qu'il... Il ne voulait pas prendre le risque d'apprendre un échec. Moi, je le voyais comme je prends le risque d'être très heureuse, en fait, d'apprendre que ça a fonctionné. Et voilà. Et puis Lola l'a demandé, là, il y a 2 jours, comme ça, pour savoir. Mais c'est...
Et vous aviez gardé contact avec Emeline
Pas plus que ça. Moi, je l'ai appelée qu'une fois, là, pour lui demander ça, et puis pour lui demander... Elle pose des questions sur l'opération en elle-même. Est-ce qu'il... Voilà, je sais pas comment ça se passe, quoi. Est-ce qu'il est anesthésié? Est-ce que ça...
Oui.
Voilà. On se dit, bon, il peut pas s'exprimer, il dit rien, mais est-ce qu'il a les sensations des douleurs? Ouais. Je sais pas. Enfin, quand on a été confronté au décès du... Enfin, on était sidérés, quoi. C'est clair que là, c'était le choc brutal, enfin, ce qui prévient pas et tout... Voilà, donc il y a eu cette sidération, et puis ensuite l'ouverture à la possibilité de don. Donc là, c'était une chance. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Une chance qu'il y ait une suite possible. Et puis après, il y a eu le bonheur de savoir que ça s'était fait, quoi, et bien fait. Enfin, on y pense tout le temps, quoi.
Ouais.
Je veux dire, on est... Enfin, moi, je vis à deux, en fait. Mais par contre, voilà, le geste du don et le fait que ça ait pu marcher, en plus, c'est vraiment une aide pour nous. Enfin, une aide, une ouverture positive, quoi, et vers la vie. Et donc un super réconfort, quoi. Enfin, une note très optimiste. Et voilà, ça c'est... Ça s'est bien passé. Enfin, oui. Les choses s'enchaînent favorablement, finalement, et sont comme elles doivent être, quoi.
Merci beaucoup à Caroline Glénat pour son témoignage inédit.
On remercie également sa fille Lola, ainsi que Marion Martin, dont le papa a également donné ses organes. Elles ont toutes les deux participé, toutes les trois même, à la création du lieu de reconnaissance des donneurs d'organes.
Ce sont des voix qu'on entend peu, mais qui raconte un amour immense.
Nous recevons maintenant Philippe, qui a été greffé en 2012.
Bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour. On vient d'entendre le témoignage des familles. Vos donneurs, donneuses restent anonymes pour vous, les personnes greffées, mais on imagine que vous y pensez régulièrement, non ?
Oui, tout à fait. Si je n'avais pas eu mon donneur, ma vie se serait arrêtée au printemps 2012. Et même si aujourd'hui c'est moins fort, moins important comme ressenti, par exemple lorsque je me déplace un peu loin, je fais brûler une petite bougie en sa mémoire. C'est un espèce de marqueur dans ma vie. Bien sûr, je pense toujours à ce donneur parce que le fait d'avoir un nouvel organe, un nouveau cœur, oblige à certaines contraintes, si je peux dire ça comme ça. Je prends soin de cet organe, notamment la prise du traitement, la qualité, ou je dirais même l'hygiène de vie, même si parfois je m'autorise un petit écart, mais assez à la marge quand même.
Philippe, comment avez-vous vécu l'attente de la greffe ?
Alors, je dirais relativement bien, parce que quand on a l'âge que j'avais à l'époque, on se dit j'ai déjà eu un beau parcours, donc il ne faut pas être plus royaliste que le roi et se dire que peut-être que je n'aurai pas la chance d'avoir une greffe. Mais les deux derniers mois ont été assez difficiles parce que la maladie empirait fortement et beaucoup plus vite que dans les mois et les années précédentes, à tel point que les organes essentiels, déjà le cœur, bien sûr, n'en parlons pas, il était très au ralenti, les reins ne fonctionnaient plus, le foie était à la peine, j'avais un ventre énorme à cause de son grossissement, et puis à la fin, eh bien, mes poumons se remplissaient d'eau. Mais le plus dur, c'est dans les dernières semaines, se dire il faut que j'ai un organe rapidement pour essayer de me sortir de cette mauvaise passe. Mais d'un autre côté, je disais, je me suis mis à penser, c'était jour et nuit, je me suis mis à penser, il faut que quelqu'un décède pour pouvoir revivre. Et puis j'ai entendu cette petite phrase, un donneur se positionne pour donner ses organes, et ça m'a réconforté. Et d'un autre côté, je me disais, mais c'est exactement la démarche que tu as eue il y a une dizaine d'années. Donc voilà, la boucle était bouclée et donc j'étais serein.
Philippe, est-ce que vous pouvez nous raconter le moment où on vous a annoncé que vous alliez être greffé ? Que ressent-on à ce moment-là ?
Ah, c'est difficile parce que c'est plein d'émotions. C'était sur le deuxième appel que la coordination des greffés de Lyon m'appelait. Il y avait eu déjà un appel début janvier. Et puis, sur cet appel, c'était une nuit où il y avait eu un coup de foudre et le téléphone fixe ne marchait pas. Et donc, il y avait des portables déjà à cette époque-là. Et donc, le médecin que j'ai en contact me dit « On a un organe pour vous. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour être greffé ?» La question m'a posé c'était un questionnement. Je me dis « Pourquoi cette question ?» Mais moi, j'étais prêt. Donc, j'accepte. Et j'attendais cet organe avec impatience, donc j'ai accepté sans hésiter. J'apprends pas du tout la greffe. Je me suis toujours dit que c'était un bien contre le mal que je vivais à ce moment-là, et que si on proposait quelque chose, si on proposait un cœur nouveau, eh bien c'était le moment, c'était l'occasion, en sachant que les organes étaient rares.
Et après l'opération, est-ce que vous avez changé ?
Oui, bien sûr, on change de multiples façons. Alors, on change physiquement parce que pour moi, c'était quelque chose où j'étais, alors j'aime pas l'expression, mais à l'article de la mort, hein, je voyais bien qu'il n'y avait plus rien qui marchait. Mais comme j'ai dit plus avant, j'avais accepté malgré tout de pas pouvoir aller plus loin. Et puis, je me suis retrouvé très, très, très vite, dès les premiers jours, comme quelqu'un qui était dans une nouvelle vie. J'étais neuf, en quelque sorte. Je sentais que tout marchait bien. Et puis, en quelques semaines, je suis remis sur pied. J'étais à la fois fort dans ma tête parce que je savais le cadeau que j'avais reçu, et puis physiquement c'était une réussite. Et puis d'un autre côté, eh bien, on est plus sensible à ce qui se passe autour de soi, on s'arrête moins sur les questions matérielles, et puis on est plus proche des autres et notamment de la famille. Ça c'est quelque chose qui m'a changé.
Hop. Est-ce que tu veux que je les alterne ? Non ?
Oui, Philippe.
Ah oui, il faut que tu les alternes.
Il faut que ce soit alterné.
Et un, non ? Ou c'est bon comme ça ?
J'alterne pareil, parce que de toute façon, tu sais qu'on a...
Avec le lien. On vient de l'entendre, Philippe. Vous avez participé à la création du lieu de reconnaissance pour les donneurs, que l'on voit juste à côté de nous. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, ce projet ?
Alors, pour moi, depuis qu'on en parle, ça fait déjà quelques années, je l'attendais déjà beaucoup plus tôt. Parce qu'on ne peut pas être greffé, on ne peut pas être soigné si on n'a pas de donneur. Et si on a des donneurs, il faut quelque part, il y ait une reconnaissance de ces gens qui s'étaient positionnés pour pouvoir aider des personnes alors qu'eux sont dans la détresse et qu'ils vont mourir. Et puis, l'idée du tissage tel qu'il est fait sur ces 6 tableaux, ça m'a bien plu parce qu'en fait, ça ressemble à la vie. Pour arriver à être greffé, entre la liaison entre le donneur, le receveur, les familles, les médecins, les infirmières et j'en passe, c'est un tissage. Alors, ce n'est pas un tissage classique, hein, ce n'est pas comme un tricot. Mais dans le deuxième tableau, c'est un petit peu ça. C'est un mélange de beaucoup de choses. Et pour moi, c'est symboliquement, c'est l'union entre le donneur, le receveur. Et puis pour moi, c'est un levier, un lieu où on note les difficultés. C'est un lieu où il y a un certain amour. C'est quelque chose qui fait part que la vie est importante.
Merci beaucoup, Philippe, pour votre témoignage. C'est un témoignage très fort et ça donne vraiment à réfléchir.
Mais encore trop peu de personnes expriment leur position de leur vivant et leurs proches sont confrontés souvent à un choix par défaut.
Et les équipes hospitalières doivent souvent parler avec les familles dans des moments très douloureux. Alors, au-delà de la perte d'un être cher, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ?
Catherine Duchat, psychologue au sein de l'équipe mobile territoriale d'accompagnement, soins de support et soins palliatifs au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, nous éclaire sur ce qui reste tabou autour du don d'organes.
Elle nous explique aussi ce qui peut se passer pour les membres de la famille quand ils doivent faire un choix pour leurs proches. On l'écoute.
Vous travaillez à l'EMASP. Alors l'EMASP, qu'est-ce que ça veut dire ?
Équipe mobile de soins et d'accompagnement palliatifs.
Quels sont les grands bouleversements émotionnels que traversent des familles quand elles perdent un proche ?
Dans un premier temps, c'est la sidération, parce qu'on ne se prépare jamais à la perte d'un proche. Puis petit à petit, comme il y a des démarches à faire, la personne est obligée de cheminer peut-être un peu plus vite que ce qu'elle ferait de manière plus naturelle. Face à un cataclysme psychique de perdre un proche, c'est bien évidemment difficile de faire des choix, d'avoir des choix de manière plus raisonnée possible, parce qu'il faut du temps.
Pour que les organes d'une personne puissent être prélevés, on parle de mort encéphalique, ce qui représente environ seulement 1% des morts en France. Ce n'est pas un décès auquel on s'attend. La soudaineté de la perte peut-elle impacter les décisions des familles et comment ?
Alors oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, déjà voilà, face à une mort suite à une maladie, peut-être qu'on peut un petit peu cheminer, y réfléchir, faire des allers-retours. Il y a quelque chose qui se met en place au niveau des mécanismes de pensée. Et là, face à une arrivée brutale d'un décès, la notion du temps, elle est encore plus importante. Enfin, le choc, il est encore plus fort. Et dans ces moments-là, les médecins, ils sont en attente. Il faut que les familles prennent des décisions très rapidement. Et je pense que bien souvent, les familles sont en incapacité de dire oui ou non si ça n'a jamais été évoqué du temps du vivant avec la personne qui est en train de mourir. Oui, je crois que l'idéal, si on peut parler d'idéal, ça serait de pouvoir en parler quand tout le monde est en bonne santé. Mais trouver ce temps-là pour parler d'une éventuelle mort, donc de soit de sa propre mort ou de la mort de son conjoint, de ses enfants, c'est pas un sujet qu'on lance peut-être autour d'un repas de famille et qu'il faut peut-être aussi trouver ce temps-là pour prendre le temps de parler ensemble sans crainte, sans inquiétude. C'est pas parce qu'on va parler de ces questions-là, hein, de la mort et du don d'organes, qu'il va nous arriver quelque chose derrière. Et encore bien souvent, il y a des familles qui sont dans ces croyances-là. pouvoir en parler, c'est de s'assurer que du coup nos souhaits ils seront suivis, entendus, et puis de s'assurer aussi, si c'est pas pour nous, pour nos proches, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Et du coup, le jour où ça arrivera, on va pas trahir la parole de notre proche. Et ça, je pense que c'est très important aussi par rapport à tout ce travail de deuil qui sera à traverser après la mort et après le don d'organes.
Pourquoi est-ce si difficile encore à l'heure actuelle de parler de la mort avec ses proches ?
Alors, je pense que c'est une question qui est hyper taboue. Nous ne pensons pas au don d'organes car cela implique d'envisager notre propre mort. Enfin, on vit dans une culture où on essaye à tout prix d'éviter de se poser ces questions-là.
Quand on sait qu'un des organes de son proche a pu sauver une vie, est-ce que ça peut aider dans le processus de deuil ?
Alors, je pense qu'effectivement, je pense que ça peut être porteur d'espoir face à ce néant, enfin le fait de l'absence de la personne. Il y a quelque chose qui va continuer d'exister et d'être vivant. Alors, bien sûr que la famille, elle ne sait pas vers qui l'organe a été transplanté, mais il y a quelque part, à un endroit, il y a quelqu'un qui continue de vivre. Et ça, je pense qu'effectivement, ça peut vraiment être quelque chose de positif et amener une forme de pulsion de vie par rapport à ce fracasme, justement, de la pulsion de mort quand on perd quelqu'un de proche.
Donc ça donnerait du sens à la mort ?
En tant que psychologue, je pense que ça peut donner du sens et... En tout cas, d'amener quelque chose de dynamique, une psychodynamique où la mort, elle ne vient pas complètement figer, tout anéantir. Ça met en mouvement, en perspective. Je pense que ça peut être aidant.
Donc, d'après vous, quels pourraient être les freins au don d'organes à l'heure actuelle ?
Alors, je pense qu'il peut y en avoir plusieurs, en fonction aussi des cultures et des croyances. Mais il y a peut-être aussi le manque d'informations sur le don d'organes, du processus, où du coup ça peut créer des craintes, des malentendus, notamment sur la manière dont les organes sont prélevés ou utilisés. Peut-être qu'aussi certaines personnes ont peur de la douleur et de la souffrance. Peut-être que voilà, là vraiment le rôle des médecins c'est de rassurer, parce que si on n'est pas au courant, peut-être qu'on peut s'imaginer aussi que la personne qui va être prélevée peut ressentir quelque chose dans son corps. Il y a le manque de temps aussi pour prendre la décision. Comme on le disait tout à l'heure, la décision, elle doit se prendre rapidement, ce qui peut être stressant et difficile pour les familles en deuil. Il y a peut-être aussi des expériences négatives antérieures avec l'hôpital. Ça peut aussi entraver le fait d'accepter aussi ce don d'organes. Il peut y avoir aussi des pressions familiales et sociales. Ça, je pense qu'il faut aussi faire attention. Enfin, on ne peut pas induire chez ces familles-là en détresse qu'il faut faire comme ci ou faire comme ça. Je pense qu'il faut rester très humble.
Que diriez-vous en tant que professionnelle, mais aussi peut-être en tant que citoyenne, à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui hésitent à parler de leur position sur le don d'organes à leurs proches ?
D'oser en parler, parler de la mort ne tue pas. Je vois bien que les familles que j'accompagne dans les suivis de deuil, plus la question de la maladie, de la souffrance, de la mort, elle est discutée, échangée en famille, plus le deuil s'élabore de manière plus apaisée.
Merci beaucoup.
Ce qu'on vient d'entendre montre à quel point ces décisions sont lourdes à prendre, mais aussi à quel point elles comptent, puisqu'elles sauvent des vies. C'est bien ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le témoignage de Caroline Glénat.
C'est pour ça que le Code de la santé publique prévoit depuis 2004 que dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation de prélèvement, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance au donneur.
Le projet artistique mené à Bourg-en-Bresse correspond à cette demande. Les patients et les soignants ont créé une œuvre collective pour honorer les donneurs et leurs familles.
Avec nous aujourd'hui, les deux designers qui ont mené ce projet participatif. Bonjour Léa et Camille.
Bonjour. Bonjour.
On écoute tout de suite un extrait de l'ambiance pendant la création de l'œuvre collective.
Pas mal en plus, c'est...
Tu vois, regarde.
C'est qu'on puisse faire les tableaux à plusieurs.
Bah oui, chacun dit, bah tiens, oui, ça serait peut-être pas mal.
Oui, tu fais ton tableau tout seul, tu te sens un peu... Non, moi je me sens un peu...
Parce que à la limite... On peut faire après, là ça va être les donneurs centrales
Et après, on peut faire un plutôt vert, un plutôt bleu, un plutôt orange, enfin, des couleurs fraîches, vives. Et avant, on peut faire que deux. Moi, je mettrais que deux tableaux avec l'attente, la patience, le combat, etc. Et par contre, après, c'est l'explosion de couleurs, c'est la vie qui domine, le bonheur, alors, etc.
Ce qu'il y a, c'est qu'en faisant comme ça, ça t'oblige à une chronologie. Je dirais presque tes tableaux 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oui, on peut les mettre comme elles ont aussi le volume en hauteur.
Oui, mais il faut qu'il y ait une continuité. Alors, si tu fais ta continuité
après,
par
on
là.
On pourrait mettre.
On vient d'entendre un extrait des discussions qui ont eu lieu lors de la création de l'œuvre en hommage au donneur. Racontez-nous un peu comment vous vous êtes adapté aux idées, à la sensibilité de tous les participants.
Alors cette œuvre, elle a été faite pendant un atelier créatif. Donc un atelier créatif, qu'est-ce que c'est ? C'est on va rassembler des personnes de différents horizons autour d'un sujet pour qu'ils créent ensemble des concepts et des idées qui sortent des concepts et des idées originaux sur un temps très concentré. Donc par la nature même de l'exercice, il y a beaucoup d'idées différentes, de sensibilités différentes. Donc on a une trame qu'on garde, nous, en tant que médiatrice. Mais on sait qu'il faut qu'on se garde une marge de manœuvre qui est assez large pour pouvoir s'adapter et retravailler le déroulé si besoin, comme ça a été le cas pendant l'atelier. Parce que vu qu'il y a beaucoup de personnes différentes, on sait où on commence, mais on ne sait jamais exactement quel sera le résultat final. Puisque ça dépend beaucoup des sensibilités de chacun. Voilà.
Du coup, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de tisser les cadres de bout en bout. On peut s'arrêter au milieu, commencer au milieu. Enfin, c'est comme ce qu'on a fait là. En fait, on n'est pas obligé de tout remplir. On peut laisser des vides. On peut fonctionner par blocs. On n'est pas obligé non plus de faire des lignes horizontales, hein. C'est possible de faire des escaliers, des diagonales, etc.
On vous entend expliquer et donner des consignes. Comment avez-vous pensé la forme de l'œuvre pour qu'elle transmette un message sensible et universel sur le don d'organes ?
Alors nous, quand on a commencé le projet et à s'intéresser aux dons, en fait, on a remarqué que c'était essentiellement représenté par des statistiques qui sont évidemment très importantes, mais on avait envie de donner une forme plus humaine à ces chiffres et de s'orienter vers une démarche plus émotionnelle aussi, en représentant des choses qui sont difficiles à matérialiser, donc les ressentis, les histoires, les émotions de chacun. Parce qu'en ayant une démarche plus personnelle, ça rend le projet universel quelque part. Parce que chacun va être, ça va résonner en chacun, parce qu'on a tous vécu des choses. Qui peuvent être similaires à ce que chacun a vécu dans le processus de don.
Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi d'utiliser le tissage, parce que ça faisait assez bien écho au don d'organes, parce qu'on assemble plusieurs choses, etc. Et du coup, c'est pour ça, là, comme on a entendu avec l'extrait, qu'on vient travailler différentes techniques, etc.
Juste une question, ils vont être côte à côte, ou alors, je dis n'importe quoi, le donneur, par exemple, il pourrait avoir celui-ci avec une place centrale et les autres autour, par exemple.
Ça pourrait être bien.
Parce que moi, j'aimerais bien que le donneur, il soit au centre du...
Oui, tout à fait. Oui.
Enfin, je dis celui-ci parce que...
En tant que designer, c'est rare de travailler directement avec des familles, des soignants et des patients. Comment l'objectif d'hommage aux donneurs et à leur famille a-t-il influencé votre manière de créer ?
Alors, nous, personnellement, c'était la première fois qu'on travaillait avec le milieu hospitalier, mais il faut savoir que pour les designers, c'est assez commun, en fait. Il y a même des designers qui sont spécialisés dans, du coup, le design médical. Parce qu'en fait, en tant que designer, l'utilisateur, l'humain, c'est toujours le point de départ de tous nos projets. Donc en fait, on travaille tout le temps avec des personnes de différents horizons et c'est vraiment toujours le point de départ de notre réflexion. Et là, ça a du coup été le cas aussi où on a pris comme point de départ donc les donneurs et leurs familles. Et en fait, on a tisser un peu, on a essayé de matérialiser toute cette chaîne de, qui se joue pendant le processus de don d'organes, donc avec le personnel soignant qui accompagne les familles, les personnes greffées qui reçoivent l'organe ensuite. Donc voilà, c'était tout notre objectif de matérialiser cette chaîne.
Pour la perte, peut-être qu'on peut mettre celui-là, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un truc qui est un peu fragmenté, il y a un vide au milieu. Et du coup, ça peut être quelque chose comme ça aussi pour symboliser la perte.
Je sais pas le si vide.
Le, voilà.
La solidarité, ouais. Il y a aussi les jeux
de tissage
qui peuvent être intéressants pour symboliser les liens.
Mmh. Bah, tu peux commencer voilà, comme tu as fait ici, c'est très bien.
Bah ouais, Et après, tu peux mettre différents...
Tu peux avoir des choses aléatoires. Là, tu as fait 2, 2, 2. Tu peux faire 1, 1, 1. Enfin, dessus, dessous.
Pourquoi avoir choisi la technique du tissage pour ce lieu de reconnaissance aux donneurs ?
Alors, pourquoi le tissage ? Déjà, de par sa nature, qui est d'assembler différentes matières pour créer un motif ou même une trame, ça nous semblait assez représentatif de cette notion de chaîne, d'association, de création de liens qu'il y a tout autour de, du processus de don d'organes, avec au centre évidemment la famille de donneurs, mais tout autour il va y avoir le service de coordination qui va créer aussi des liens, donc évidemment le fil qu'on va utiliser dans l'assemblage, dans le tissage est assez cohérent avec cette histoire.
Et bon, autrement, on fait une grande plaque PVC, on met un cadre tout le tour. Ouais. Tous les plexis.
Le problème qu'il y a, c'est qu'avant de faire ça, il faut être sûr que ça va être posé comme ça. Ouais. Donc c'est surtout ça.
Non, mais à l'issue de cette matinée-là, on saura exactement
ce qu'on fait.
Tu refais des petits.
Et comme ça, je fais 4 trous là, et puis ça, on y fixe dans le PVC. Au moins, il n'y a que 4 trous dans le mur. Une grande plaque plexi par-dessus, puis c'est tout couvert.
Ouais, bah si tu veux, ouais.
On l'entend, il y a des contraintes étant donné que l'œuvre est exposée dans un lieu de soins. Comment vous vous êtes adapté à celle-ci ?
On n'a pas hésité à faire évoluer l'œuvre, en fait, puisque à la base, ça ne devait pas ressembler exactement à ça. On avait pensé quelque chose de beaucoup plus central, une sorte de kakémono suspendu, toujours avec le même principe de tissage, d'émotion, etc. Mais du coup, on pouvait tourner autour et tout ça, et on nous a rapidement dit que ce n'était pas possible pour des questions de sécurité, d'hygiène, etc. Et qu'il fallait absolument que ce soit contre un mur. Donc on a pris en fait cette contrainte plutôt comme un vecteur créatif. Et on a essayé de s'emparer de ce mur. Et donc on s'est dit, pourquoi pas transformer l'œuvre pour avoir plutôt comme un mur de cadre photo de famille qui du coup est assez pertinent ici, puisque les photos de famille, ça nous permet de se souvenir et de transmettre, tout comme l'objectif de cette œuvre.
Camille, Léa, merci beaucoup.
Merci.
Oui, merci, parce que ce projet, il tisse des fils invisibles entre ceux qui donnent, ceux qui reçoivent et ceux qui accompagnent.
On vous rappelle que l'œuvre tissée, lieu de reconnaissance pour les donneurs d'organes, est accessible à toutes et tous dans le hall d'entrée de l'hôpital de Bourg-en-Bresse depuis aujourd'hui.
Vous écoutez Radio B.
Aujourd'hui, on a entendu des voix fortes, sensibles, humaines.
On espère que ça vous a donné envie de parler du don d'organes avec vos proches, de vous informer et de ne pas laisser les autres décider pour vous.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission.
Merci à Perrine à la réalisation et à Jimmy à la technique pour Radio B.
Ce projet a été réalisé avec l'aide de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
et la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme régional Culture et Santé animé par Interstice.
Nous remercions France Adot 01, Association pour le don d'organes et tissus pour le département de l'Ain, pour leur participation, la blanchisserie de l'hôpital et les entreprises qui ont fourni gracieusement les matières premières, les ateliers Jouffre, Bacchus, l'association Tremplin et la maison des Canuts.
On vous quitte en musique, restez à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
et pensez à parler du don d'organes avec vos proches.
I watched him circle around the block, finally stopped at mine. Took a while before he knocked, like all he had was time. Excuse me, ma'am, maybe you can help, the directions weren't so clear. I'm looking for Olivia's hand. They said I might find her here. Well, I looked real hard and asked him what she's got he's looking for. Said there's something I think she'd want to know when I let him in the door. It's not like me to trust so quick. Caught me by surprise, but something about him gave me ease right there in his eyes. Just like that, your life can change. If I hadn't looked away, my boy might still be with me now. He'd be 25 today. No knife can carve away the stain. No drink can drown regret. They say Jesus brings you peace and grace. Well, he ain't found me yet. Sat down and took a deeper breath and looked right in my face. I heard about the son you lost, how you left without a trace. I spent years just trying to find you so I could finally let you know. It was your son's heart that saved me and a life you gave us both. Just like that, your life can change. Look what the angels send. I lay my head upon his chest. I was with my boy again. Well, I spent so long in darkness, I never thought the night would end. But somehow grace is